maintenant un bon boîte casse.
Maintenant un bon boîte casse. Maintenant un bon boîte casse.
Et bonjour à toutes et tous. C'est un plaisir, comme chaque année, de rencontrer Bruno Catala. Bonjour Bruno.
Mais bonjour.
Mais voilà, j'espère que c'est un plaisir partagé. Enfin, on va dire que oui.
Ben, on va dire que oui. Non, mais oui, mais bien sûr.
Non, tu n'es pas obligé, c'est ça, je comprends.
Bah déjà, tu parles un allemand que je comprends parfaitement.
Oui, c'est rare.
Et ça, c'est quand même déjà très agréable.
C'est une forme de service.
Exactement.
Tout à fait. Alors, on est sur le stand Hurricane, parce que Bruno Catala a l'habitude de sortir des jeux chez Hurricane chaque année, en fait.
Oui, mais pas cette année.
Pourquoi ?
Ben, j'ai pas de jeu à moi cette année.
Et pourquoi tu... Ah oui, c'est vrai.
Parce que sur l'idéaliste, c'est pas marqué Bruno Catala.
C'est vrai.
C'est marqué Ludovic Gaillard.
Ah oui, tout à fait. Mais donc, donc tu animes en fait les Mr. Jack et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Mr. Shark aussi. Dr. Shark plutôt.
Dr. Shark, oui, exactement. Puis on a toute la gamme des Mr. Jack.
Ouais,
plus
tout à fait.
Plus Faux, plus Prout, qui est le jeu qui laisse des traces.
Oui, mais ça dépend où on le met.
Voilà, c'est ça.
Absolument.
Alors justement, là, ça, ce sont des sorties chez Hurricane qui ont déjà un an, on va dire. Hein.
Ouais, c'est ça, enfin, voire plus, même pour certains. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme actualité chez Bruno Catala qui ne sont pas sur le stand Hurricane, mais on leur dira pas?
Alors en fait, non, mais de toute façon, on peut parler de tout, hein, ici.
Oui, c'est vrai, c'est libre.
Oui, tout à fait, il n'y a aucun problème. Donc moi, sur le salon, j'ai essentiellement une sortie qui est Les Chevaliers de la Table Ronde, le jeu de cartes.
Okay.
Donc toujours un coopératif, toujours avec Serge Jay, toujours dans l'univers des Chevaliers à Table Ronde, mais par contre qui s'explique en 3 minutes et qui se joue en 15 ou 20 minutes. Et voilà, donc...
Et ça justement, comment ça fonctionne, sachant que bon, au départ, les Chevaliers de la Table Ronde, un des grands jeux coopératifs qui est un peu, qui était là bien avant cette nouvelle vague de jeux coopératifs,
ouais.
Et là on sort en version carte.
Alors voilà, ce qu'il y a, c'est le challenge, si tu veux, ça a été de faire un jeu vraiment différent. Mmh. C'est-à-dire que on a évidemment tout fait pour garder le même feeling autour de la table entre les joueurs, c'est-à-dire en fait, est-ce que je peux te faire confiance quand tu es en train de me dire un truc ? Mais la mécanique du jeu en elle-même, en fait, elle a radicalement changé, donc c'est pas une extension, c'est pas une miniaturisation du jeu initial, c'est vraiment un autre jeu dans l'univers des Chevaliers de la Table Ronde.
Et donc, j'ai vu un peu le matériel, on a effectivement un paquet de cartes,
ouais.
Mais aussi, on a encore des épées, ce genre
oui,
de
choses. Oui, bah, toujours pour marquer l'avancée du bien ou du mal, épée blanche, épée noire, on peut les retourner, enfin voilà, et toujours bien évidemment le traître.
Voilà, c'est ce que j'ai dit.
Avec une spécificité vraiment dans ce jeu, c'est que en fait c'est le seul jeu à ma connaissance, mais enfin où je les connais pas tous non plus, dans lequel tu as un alignement au début de partie, mais il peut changer pendant la partie et plusieurs fois. C'est-à-dire que je suis loyal, je peux devenir traître, redevenir loyal et ainsi de suite. Ce qui donne là aussi une ambiance particulière autour de la table, quoi. C'est ça l'intérêt.
Tout à fait. Alors typiquement, la mise en place, comment se passe quelques tours de jeu ?
Bah, le tour de jeu, c'est très simple. À ton tour de jeu, c'est soit tu écoutes les rumeurs,
oui.
Ce qui veut dire que tu retournes la première carte du paquet et tu la montres visible à tous, sauf que les cartes vont s'empiler. Donc en fait, on ne va toujours voir que la dernière carte. Donc il y a une partie... C'est pas un jeu de mémoire, c'est plutôt un jeu d'évaluation et de prise de risque et de je pense que voilà, on est à peu près sur la bonne cible. Puisque pour déclencher une quête, enfin quand tu déclenches une quête, ça veut dire que tu paries d'une certaine façon que la valeur totale des cartes de cette quête est de 11, 12 ou 13 dans le paquet.
D'accord.
Voilà, puis évidemment, il y a des Morgane et des Bernard qui viennent foutre un peu le wild là-dedans et puis voilà.
Comme d'hab quoi.
Comme d'hab, voilà.
OK. Et le fait de changer plusieurs fois d'alliance ou
d'alignement.
D'alignement, voilà, j'ai pas fait assez de jeux de rôle.
Okay.
Et le fait de changer régulièrement d'alignement pendant le jeu, ça se représente comment ?
Bah en fait, il y a une des cartes du paquet qui s'appelle Viviane. En fait, quand Viviane arrive en jeu, au début, on a distribué une carte d'alignement à chaque joueur, mais il y en a deux qui ont été mises de côté. Et donc, le joueur qui pioche Viviane va piocher une de ces deux cartes-là et va donner l'autre à un compagnon, puisque c'est un coopératif.
Oui, bien sûr.
Et chacun de ces deux joueurs va avoir le choix de choisir laquelle de ces deux cartes il va garder.
D'accord.
Et ça peut arriver plusieurs fois dans la partie.
Uh-huh. Et quelle a été la volonté ? Parce qu'on sait que c'est quand même... Donc Serge Lager et toi, Bruno Catala, vous avez créé Les Chevaliers de la Table Ronde. Pourquoi avoir voulu partir vers une version carte ?
En fait, au départ, on voulait pas spécialement partir vers une version carte. C'est-à-dire que les Chevaliers de la Table Ronde est un jeu qui nous tient particulièrement à cœur avec Serge, pour des tas de raisons, des raisons d'amitié. Enfin, on s'est un peu rencontrés sur ce jeu-là, d'une certaine façon. Enfin, en tout cas, connu beaucoup plus que simplement « bonjour, bonjour », quoi. Donc ça a été d'abord le début d'une belle amitié, puis ça a aussi été le début d'une super belle aventure avec des Ovondeurs et avec les joueurs, parce qu'en fait, on a quand même eu un joli succès avec ce jeu-là, quoi. Et puis, le jeu, maintenant, il a 7 ans. Et à un moment donné, on s'est dit, il continue à se vendre bien alors qu'il n'y a pas spécialement de promotion de fait dessus. Mais on s'est dit, à un moment donné, de toute façon, il va s'éteindre.
Oui.
Et nous, on n'a pas envie de quitter cette aventure-là. Et on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment de refaire un coopératif, une grosse boîte, dans l'univers des chevaliers de la table ronde. Et en fait, on a bossé pendant une année sur un nouveau chevalier, enfin un chevalier 2, qui aurait été un jeu de plateau avec des nouvelles quêtes, tout un tas de trucs. C'est-à-dire en écoutant aussi toutes les critiques que les joueurs ont pu faire et donc en voulant corriger le tir.
Du genre ?
Ben, du genre, par exemple, en fait, j'ai l'impression de faire que des suites et des brelans et je suis pas trop immergé dans le thème. Du genre, je sais pas, je suis frustré parce qu'en fait, ça fait 10 parties que je fais et j'ai jamais été félon. Enfin, et plein de petites choses comme ça. Donc nous, on avait à cœur de proposer autre chose. Et puis, au bout d'une année, on a fait un jeu qui fonctionnait vraiment bien, qui était sympa, tout ça. Puis on a eu un gros moment de doute, c'est-à-dire qu'on s'est dit « Oui, mais ce jeu-là est-il suffisamment différent du jeu initial ?» Et on a eu peur, d'une certaine façon. Enfin, on a craint de décevoir, c'est-à-dire voire même d'avoir des avis négatifs avec des gens pensant qu'on cherche juste à exploiter une licence, faire du pognon, etc. Alors que notre envie, c'est vraiment avant tout de continuer à partager notre passion de ce jeu-là différemment.
Oui. Et d'ailleurs, c'est même pas des Overlanders qui vous ont demandé de faire cette version-là.
Absolument pas. Des Overlanders n'étaient pas du tout au courant de ce qu'on faisait. C'était pas une demande de leur part, etc. Et puis donc du coup, en fait, on a fait une croix sur ce projet-là. Ce qui n'est pas facile, parce que quand tu as bossé un an sur un truc, voilà, c'est du temps. Et puis c'est là, trois jours plus tard, que d'un seul coup l'idée a surgi du jeu de cartes, etc., sur une mécanique très différente. Et puis, une fois qu'on a commencé à y jouer, ça a été une évidence. Parce que en fait, tout de suite, ça a généré, enfin, toutes les gens qu'on y faisait jouer, on faisait jouer une partie, puis en fait, on en faisait 6 ou 7 de suite, quoi. Donc, voilà.
Sans connaître le jeu initial.
Exactement. Enfin, si, certains connaissaient le jeu initial, d'autres pas, peu importe, voilà. Et du coup, on s'est dit, il faut le présenter à Days, même si c'est un format qui, normalement, n'est pas un format à eux, parce qu'ils font des grosses boîtes, ils font pas trop des petites boîtes.
Mais il y a eu un aventurier du Raikart aussi, donc...
Oui, bien sûr, mais c'est une extension, c'est pas un aventurier... Oui, enfin, l'aventurier du Raikart, ouais, c'est vrai. Oui. Bref, mais c'est pas trop leur
image
éditoriale, en tout cas, voilà. Et puis on est monté avec le proto et puis à Paris et puis on les a fait jouer. Et puis là aussi les parties se sont enchaînées et puis ils ont dit voilà on va le faire quoi. Donc puis là je suis content parce qu'il y a quand même 6 tables qui jouent en permanence, le jeu se vend super bien, les retours sont bons. Et puis la petite cerise sur le gâteau, c'est moi, c'est hier soir à l'hôtel, voir Richard Garfield qui est en train de jouer, et puis qui a juste été un traître fabuleux, quoi.
Richard Garfield qui est quand même le créateur de Magic, quoi.
Voilà, entre autres.
Oui, et de King of Tokyo, et bien d'autres.
King of Tokyo, ouais, t'as fait, ouais.
Donc oui, effectivement, c'est sympa à voir.
Ah ouais, ça fait plaisir.
Alors, donc ça c'est l'actualité sénienne maintenant.
Pas uniquement, parce que j'ai aussi un petit jeu chez Jacques Talea, qui s'appelle Okia, qui est en démonstration sur le stand, qui aurait dû être en vente, mais qui est simplement bloqué aux douanes actuellement.
Super.
Magnifique.
Ouais. Parce qu'il n'a pas été produit en Allemagne, c'est ça ?
Non, et donc il devait passer la douane de toute façon, et puis voilà, il y a un souci, donc ce qui fait que le jeu ne sera pas du tout disponible sur le salon, ce qui... Évidemment, pour un petit éditeur comme Timothée, enfin Jacques Talea, est vraiment embêtant. Quoi.
Ouais. Mais bon, on peut y jouer, c'est déjà ça.
Oui, tout à fait. Ouais.
Et le fonctionnement d'Okia, c'est quoi ?
Okia, peut-être que les auditeurs connaissent Camon. Mm-hmm. Donc Okia, c'est un petit jeu abstrait, en fin de compte, un jeu à contraintes, où chacun de ton coup va donner une contrainte à l'autre. Et en fait, c'est un jeu d'alignement, où il faut réussir soit à aligner 4 pions, soit à faire un carré de 4 pions, soit à empêcher l'autre de jouer. Et ça se joue en 5 minutes, mais par contre, il y a une ambiance graphique que moi j'affectionne particulièrement, puisqu'elle est inspirée librement du Hanafuda, un jeu traditionnel de cartes japonais. Ouais.
Et le mot Okia veut dire quelque chose ?
Signifie la maison des geishas.
D'accord.
Puisque initialement, notre volonté, c'était d'appeler le jeu Geisha. Mais il se trouve que même si aucun jeu aujourd'hui ne s'appelle Geisha, il y a une certaine dame qui a protégé ce nom-là au cas où un jour elle ferait un jeu qui s'appelle Geisha.
Donc il y a vraiment jeu, quoi.
Il n'y a pas de jeu, mais le nom est protégé.
Par rapport à un jeu.
Exactement.
Pas mal.
Super.
Ok, ça c'est Jacques Talea, ouais. On était chez Days.
Et puis sinon, j'ai un dernier jeu chez Scorpion Masqué, distribué par Yellow.
C'est pas faux.
Il s'appelle C'est pas faux, effectivement. Donc avec mon acolyte Ludovic Maublanc. Et là, l'idée, c'est un quiz auquel, quand je te pose une question, c'est le premier qui répond qui va marquer un point positif ou négatif, mais sachant que dans la plupart des cas, une bonne réponse est une réponse fausse.
C'est ça.
C'est-à-dire que si je te dis quelle est la couleur des schtroumpfs,
noir.
Ça me va. Et qui a écrit Les Misérables ?
Klaus Kinski.
Ça, ça me va aussi. Enfin, voilà, on est exactement là-dedans. Et évidemment, de temps en temps, il faut quand même répondre vrai. Donc, en fait, on s'entoure, enfin, on s'embrouille dans la tête, et puis ça rigole, et puis on apprend des choses incroyables, quoi.
Oui, c'est ça, ça confirme des choses incroyables.
Exactement.
Okay. Voilà. Et donc, ça, c'est une gamme jeu d'ambiance vraiment Scorpion masqué.
Ouais, exactement. Okay. Tout à fait.
Voilà, ça, c'est Essen.
Ça, c'est. Ouais, c'est
là. Et c'est là avec moi, Marlo. Donc, et qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive?
Eh bien, avant la fin de l'année, normalement, un petit jeu de cartes chez. Et ça, c'est une super exclusivité.
Aha.
Parce que personne ne le sait pour l'instant. C'est un petit jeu de cartes chez Hurricane, justement, qui va s'appeler Chibs. Donc un jeu avec des moutons, et quand okay. Un jeu où on doit compter des moutons.
Ouais.
Et quand on
compte, on s'endort.
On s'endort, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est le dernier qui s'endort qui a gagné.
Et comment est-ce qu'on s'endort?
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un jeu qui est un peu dans la même lignée que Mo. Enfin, ouais. On est dans cette famille de jeux-là, familiale, voilà, grosse déconne, et puis, bah voilà.
Ça veut dire quoi? Il y a des cartes, il y a une mécanique.
C'est un jeu de cartes. Dans lequel, comme un mot à son tour, on doit jouer une carte puis en piocher une autre, mais évidemment il y a des contraintes, voilà, on doit les compter soit en sens descendant, soit en sens montant. Après, est-ce qu'on essaye de coincer les autres? Quand tu te fais coincer, t'es obligé de ramasser. Il y a un loup qui vient foutre le bordel là-dedans. Enfin, okay. Voilà.
On est dans la même lignée.
On est dans la même idée.
Même genre de boîte.
Même genre de boîte, illustré par Cyril Bouquet. Ouais. Et donc avec une ambiance très, je dirais, génie des alpages.
C'est ça. Ah oui, bien.
Ouais. Une BD que j'affectionne particulièrement.
Tout à fait.
Ouais.
Bien, bah, je pense que c'est déjà pas mal.
Bah, je pense que c'est déjà pas mal, ouais.
Et, on a autre chose en poche?
Non, tout va bien.
Merci Bruno, un très bon salon.
Merci vous aussi.
J'ai vu que tu avais fait une rétrospective de tous tes jeux sous forme d'images. C'était sympathique de faire comme ça un état des lieux.
Bah, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis rendu compte... que mon premier jeu est sorti à Essen il y a exactement 10 ans.
Ah, bon anniversaire Bruno.
Merci, et donc du coup, bah, ça m'a amusé de faire ça, effectivement, ouais. Pour voir un peu le chemin.
Oui, absolument. Ah. Sachant qu'il y a 10 ans, en fait, tu ne travaillais pas du tout, tu n'étais pas auteur de jeu, et donc tu t'es lancé ça...
Si, j'étais auteur.
Oui, mais tu avais un vrai métier, on va dire.
Ah, mais bien sûr, mais voilà, être auteur, ça veut dire inventer des jeux.
Oui.
Après, tu peux être auteur et pas publier.
Ça aussi,
voilà,
c'est pas faux.
Tu peux être auteur et avoir un autre métier à côté ou pas. Enfin voilà, c'est pas. Être auteur pour moi c'est une démarche.
Oui, c'est ça.
C'est pas du tout simplement j'ai une carte de visite où c'est marqué auteur dessus.
Ouais, c'est ça. Comme manager.
Exactement, c'est tout à fait ça.
Manager d'auteur.
Voilà.
Parfait. Merci Bruno et félicitations.
Merci. À bientôt.
Vous avez aimé ce podcast, alors appuyez sur la touche trop cool. Vous n'avez pas aimé ce podcast? Alors continuez. Sur podcast.net, vous en trouverez d'autres. Vous verrez, à l'usure, vous y arriverez.